Mondial Sport sur RFI. Martin Guez.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport. Un mot d'ordre dans votre émission du soir, un fil rouge, la CAN, ou plutôt les CAN, la CAN partout et la CAN nulle part, et surtout pas au Cameroun qui s'est vu retirer l'organisation de l'édition 2019. Le Cameroun pas prêt, c'est ce que dit la CAF à seulement 7 mois de l'événement. On reviendra sur la folle journée de vendredi avec Olivier Pron. La CAN féminin s'est-elle bien disputée au Ghana avec des habitués en finale, le Nigeria face à l'Afrique du Sud. Résultat à venir dans cette émission. Puis la CAN féminin toujours, mais en handball cette fois, c'est demain au Congo-Brazzaville, les gros coups durs de nombreuses joueuses binationales n'y participeront pas. On vous expliquera pourquoi. Enfin, on dira au revoir à une vieille dame. La Coupe Davis, 118 ans, fait peau neuve. Et ce n'est pas au goût de tout le monde. Mondial Sport, c'est parti. Et pour commencer ce Mondial Sport, retour sur ce séisme dans le monde du foot africain avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Martin.
La CAN 2019 qui ne se déroulera pas au Cameroun, on l'a appris vendredi.
À l'issue d'un comité exécutif extraordinaire tenu à Accra dans le secret du huis clos et qui a débouché sur cette décision historique. Bonsoir Olivier Pron.
Bonsoir Antoine Grenier, bonsoir Martin Guez.
Envoyé spécial de RFI sur notamment ce comité exécutif de la CAF, un jour historique pour le football africain, on le disait, en tout cas qui restera dans les mémoires, aboutissement de 20 mois de polémique, de tension entre la CAF et le Cameroun, et qui aura donc connu son paroxysme lors de ses deux derniers jours au Ghana, Olivier.
Oui, on le sentait venir. Vous le disiez, on en parlait depuis des mois, depuis des semaines. On savait que ce scénario était plausible, voire probable. Lors de notre arrivée ici, il y a une dizaine de jours, on a assez vite senti, quand on a commencé à se renseigner, qu'on pouvait aller vers cette idée de demander au Cameroun, eh bien, d'attendre encore un peu et de confier cette CAN à un autre pays. On abordera cela dans quelques instants. La journée d'hier, oui, elle était tendue. Les discussions avaient sans doute commencé dès mercredi, voire jeudi, puisque ces messieurs, ils sont une quinzaine de membres du comité exécutif, étaient arrivés au fur et à mesure de la semaine. Le président Hamad, lui, était en début de semaine, enfin même dimanche dernier, du côté de Casablanca pour la Coupe de la Confédération. Il a rejoint Accra mercredi, mais on imagine bien que tout ceci se discutait déjà depuis un moment. Vendredi, ça a duré longtemps. Ils se sont retrouvés à 9h du matin. Ils sont ressortis vers 16h. Là, il y a eu 2 heures pour sans doute passer quelques coups de téléphone, éventuellement, au directeur de cabinet de Paul Biya, au directeur de cabinet également, ou en tout cas l'homme de confiance d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, parce qu'on va voir que ça a des conséquences, bien sûr, sur d'autres CAN. Éventuellement. Et puis à 18h, ce communiqué, Hamad qui vient en personne, et ça n'était pas gagné d'avance. On nous a longtemps dit qu'il y aurait un communiqué qui serait lu peut-être par un membre de la CAF, mais pas forcément par lui. Et puis il assume en président qu'il est. C'est sans doute la décision la plus forte qu'il ait à prendre depuis qu'il a été élu il y a un an et demi. Et donc il est venu nous expliquer, nous les journalistes présents, eh bien pourquoi on retirait cette CAN au Cameroun. Les visites d'inspection n'ont pas donné de signes positifs, que ce soit d'un point de vue sécuritaire ou du point de vue des infrastructures. Trop de retard, pas d'assurance quant à la sécurité, et donc à l'unanimité, encore une fois, les 15 membres du comité exécutif ont décidé de retirer, en tout cas pour 2019, la CAN au Cameroun. Et c'est vrai que notamment les journalistes camerounais ont accusé le coup, et on l'a entendu dans le pays aussi, c'était pas tout à fait la bonne nouvelle attendue.
Oui. L'organisation camerounaise qui avait déjà du plomb dans l'aile depuis longtemps. Pour autant, le ministre camerounais de la communication, Issa Tchiroma Bakari, assure que les milliards de francs CFA dépensés pour la construction des infrastructures ne sont pas perdus. Pendant la CAN ailleurs, au Cameroun, les travaux continuent.
Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais, et en les achevant à bonne date, ainsi que s'est engagé le chef de l'État. Il y a néanmoins lieu de souligner que le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés sans le respect d'une certaine éthique. Notre pays, qui a écrit certaines des pages les plus belles du football africain, continuera à œuvrer sans relâche, de concert avec les autres pays africains et les instances internationales du football, au développement du football de notre cher continent.
Alors Olivier, finir les stades au Cameroun, peut-être en prévision d'une future Coupe d'Afrique, pourquoi pas dès 2021 ?
Ben oui, c'est l'idée, hein, clairement. Il ne l'a pas dit aussi clairement, d'ailleurs, le président Hamad, hier, mais ça nous a été confirmé par un de ses proches. Et puis, on sait que c'est en train de se négocier tout ceci. Bien sûr, le coup est rude pour les Camerounais, mais il faut surtout ne pas stopper les travaux en cours. Rappeler aux Camerounais que ça n'est pas pour la CAN, ces travaux, mais c'est pour le pays en général. Donc, toutes ces routes qu'on construit, tous ces stades, ben, ils resteront. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de proposer au Cameroun d'être prêt pour l'édition de 2021. Et puis après, bah, ça décalera forcément. Il va falloir négocier aussi avec les Ivoiriens pour qu'ils acceptent, eux, de passer à 2023. Mais voilà l'idée. Donc on ne retire pas la CAN au Cameroun. On lui propose simplement de lui donner deux années de plus. Alors même si c'est dur à encaisser, bah, c'est peut-être un mal pour un bien. Et parce qu'il y avait des retards.
Et avant 2021, Olivier, il reste maintenant à connaître le pays organisateur de la CAN 2019. Plusieurs candidats potentiels, on va le voir avec vous. Mais avant, on va écouter quelqu'un qui, mine de rien, fait déjà campagne, on peut le dire. Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, il est au micro de Beansport.
Vu qu'aujourd'hui on va disputer une CAN avec 24 équipes, il faut 6 stades, donc certainement que le Cameroun n'était pas prêt. Le Maroc, en termes d'infrastructure, est prêt. Maintenant, il n'y a rien de désigné encore. C'est pas le Maroc qui a encore été désigné. J'espère que ça le sera, même si ça va rajouter une pression supplémentaire. Mais la pression, on vit avec ça et c'est ce qui nous fait avancer. Aujourd'hui, mieux que le Maroc en Afrique, il peut y avoir l'Afrique du Sud qui a des infrastructures de très haut niveau. Et puis, peut-être un autre pays supplémentaire. Mais sinon, il n'y a personne d'autre qui peut organiser une Coupe d'Afrique dans des conditions avec des infrastructures parfaite.
Olivier, potentiellement 3 pays candidats et le Maroc favori des sondages ?
Oui, le Maroc favori des sondages. On a l'impression que cet appel d'offres, c'est vraiment pour faire style genre, allez, on rouvre un appel d'offres, on va voir qui est candidat. Alors on parle aussi de l'Algérie. On sait que l'Afrique du Sud, ce sera compliqué parce qu'il faut passer par le Parlement, ça risque de prendre du temps. L'appel d'offres, le cabinet d'audit, il a commencé son travail ce matin et il est missionné pour un mois. On nous a promis hier que fin décembre, on connaîtrait le pays organisateur. Les Marocains, eux, n'étaient même pas présents. Hein. Fouzi Legja est reparti très vite dans l'après-midi vers Kinshasa, me semble-t-il, où il y a un match retour demain de finale de Coupe de la Confédération. Il y assistera, mais c'est vrai qu'il n'attend que ça, les Marocains n'attendent que ça, et c'est bien ce qui pose problème d'ailleurs en général, c'est que les Camerounais et d'autres ont l'impression que ce sont eux qui ont les cartes en main depuis le début. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est sans doute au mois de juin prochain au Maroc qu'il faudra aller, mais la réponse, elle sera pour fin décembre.
Olivier Pron en direct d'Accra au Ghana avec les moyens techniques de Médard Chablais. Oui, merci à vous deux.
Les CAN toujours, mais au féminin et le foot féminin en Afrique, c'est simple. 11 joueuses face à face et à la fin, c'est le Nigeria qui gagne, Antoine. Nouveau titre continental pour les Super Falcons.
Elles ont décroché leur 9e victoire en Coupe d'Afrique des Nations cet après-midi. Succès au tir au but en finale face à l'Afrique du Sud après une rencontre vierge en but, pauvre en occasion. Pourtant, les Nigériens auraient pu se faciliter la tâche à la 74e minute lorsqu'elles ont obtenu un pénalty. Mais Azizat Ochoala, l'ancienne joueuse d'Arsenal et Liverpool, a complètement manqué sa frappe, laissant les deux équipes à 0-0 jusqu'à la fin de la prolongation. Lors de la séance de tir au but, la Nigériane Onome Ebi a manqué sa tentative d'entrée en trouvant le poteau, mais les Sud-Africaines ont été encore plus maladroites en ratant 2 tirs. Sur le dernier, la gardienne nigériane Olwehi a détourné la frappe de Motlalo. Score final, 4 tirs au but à 3. Troisième sacre consécutif pour les Nigériennes après ceux de 2014 et 2016. Le 9e en tout relève la capitaine nigériane qui ne compte pas les deux premières éditions disputées sous un autre format, mais remportées quand même par le Nigeria. Mais 9 ou 11 titres, ça ne change rien à la joie de Rita Chikwilu.
9e victoire en 11 éditions, c'est vraiment incroyable pour nous. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens, mais je remercie les filles pour tout. On voulait tellement cette coupe pour donner à notre entraîneur un très joli cadeau d'anniversaire. Oui, car aujourd'hui c'était son anniversaire et on lui avait promis. Alors on lui a rapporté.
Rita Chikwelu, la capitaine nigériane, qui s'est donc imposée avec ses coéquipières sur des Sud-Africaines, décidément maudites, 4 finales, 4 défaites, mais qui se consoleront avec leur ticket pour le mondial féminin. Désiré Ali, sélectionneur de l'Afrique du Sud, déçu, mais pas trop.
Bien sûr que vous êtes déçu quand vous perdez, mais je peux être très fier de notre performance. On est fier de s'être aussi bien battu. Les tirs au but, c'est une telle loterie, ça aurait pu donner le résultat inverse. Je suis fier et déçu à la fois, bien sûr. On a poussé autant qu'on pouvait, on a fait ce qu'il fallait, Sur une ou deux occasions, ça aurait pu basculer. Elles ont raté un tir au but. Ça a été un bon match, de bonne qualité. On a eu l'intention de poser le ballon et de jouer au sol. On est comme ça, on ne changera pas. Physiquement, on ne pouvait pas rivaliser. On va continuer sur ce chemin parce qu'on a un bon groupe, une bonne équipe. Il y a de jeunes joueuses qui arrivent et on va se tourner maintenant vers la Coupe du Monde.
Désirée Ellis, sélectionneur de l'Afrique du Sud au micro de Tété Hadji. Prochain rendez-vous pour elle et les autres, nigérianes, sud-africaines et camerounaises, juin prochain en France pour la Coupe du Monde. Quant à la prochaine CAN, c'est pour 2020 au Congo.
Et lui était attendu à Abidjan, Antoine, par un public nombreux, venu acclamer un des joueurs les plus spectaculaires de ces dernières années. Sauf que Ronaldinho, le Brésilien, champion du monde 2002, eh bien, n'est jamais venu.
Un contre-pied dont il avait l'art lorsqu'il était joueur. À l'époque, ses esquives faisaient lever les foules. Cette fois, ça n'a fait rire personne, Youen Gourlet.
Hué par tout un stade. Rarement dans sa carrière, Ronaldinho aura été associé à une telle bronca. Après 3 heures d'attente, les plus de 4000 fans de la star brésilienne commencent à sérieusement s'impatienter.
Est-ce que Ronaldinho va arriver ici ? Il verra là ou pas ? On vient de loin. Depuis 16 heures, nous sommes là et jusqu'à présent, on n'a pas vu Ronaldinho. Et notre présence aujourd'hui, c'est juste pour voir Ronaldinho.
Pour animer l'après-midi, deux centres de formation s'affrontaient avant de laisser place à un match de gala entre anciennes gloires du foot ivoirien et entrepreneur. L'ancien joueur de 38 ans devait y prendre part et jouer une mi-temps de chaque côté. Mais c'est raté. Stéphane Néolier, opérateur économique, décide donc de commencer sans lui.
Au départ, on nous avait dit qu'il jouait. Après, on nous a dit qu'il ne jouait pas, mais qu'il allait venir, qu'il allait faire un acte de présence. Mais là, on l'a pas encore vu. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même commencer le match. Parce qu'on est des passionnés de foot. Et puis s'il vient, il prendra le match en cours.
Mais à 18h15, la nuit tombe déjà et les lumières ne fonctionnent plus. Ronaldinho, lui, se fait toujours désirer et les supporters passent de l'inquiétude à l'agacement.
Et qu'ils nous ramènent aujourd'hui 22 personnes là pour dire qu'ils sont venus jouer un match, mais nous ne sommes pas là pour les regarder. Ah non, nous sommes désolés, nous sommes venus pour Ronaldinho. Tu as l'occasion de le voir une seule fois dans ta vie. On n'a pas de passeport, on n'a pas de visa pour dire on va aller en Europe pour le voir. C'est ici notre dernière chance. Donc là, je suis plus que dessus.
Ici, tout le monde admire la carrière, la technique et la joie de vivre du Ballon d'Or 2005. Mais Ronny, c'était aussi des retards à répétition et un sérieux penchant pour l'alcool. Son voyage ivoirien avait d'ailleurs très mal commencé.
Depuis le raté de son avion avant-hier, cela ne laissait présager que l'organisation allait être complètement cafouillée.
Serge Dakoury, journaliste à la télévision publique ivoirienne.
Écoutez, dans sa vie, il a eu une vie tumultueuse. C'est vrai que le talent est indéniable, tout le monde le sait. Mais on sait ce qu'il a fait à Paris avec Luis Fernandez. Il avait du talent, mais on savait qu'en dehors du talent, Ronaldinho avait une vie quelque peu agitée. Et donc ça continuait jusqu'à sa retraite. Et donc je pense que bon, c'est la star avec un peu ce qu'il y a autour des Brésiliens. Vous savez que les Brésiliens sont assez particuliers. Les Brésiliens, il y a le talent, mais il y a un peu des désordres dans le comportement.
À 19h, c'est officiel, l'idole ne viendra pas. D'après nos informations, Ronaldinho a passé la journée avec différents ministres, la première dame et quelques entrepreneurs pour renforcer la coopération ivoiro-brésilienne. Mais une chose est sûre, ici, Ronny n'a pas renforcé sa popularité. À Abidjan, Youen Gourlet, RFI.
On continue à parler de sport féminin, on continue à parler de la CAN, mais cette fois-ci handball. CAN qui débute ce dimanche à Brazzaville au Congo, les Angolaises font encore une fois figure de grande favorite, tenante du titre et 12 fois vainqueur de l'épreuve. Mais certaines équipes comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Congo Brazza s'étaient bien renforcées avec notamment des joueuses binationales et beaucoup de françaises comme Audrey de Rouen et Audrey Bruno, vice-championne du monde avec la France qui devait défendre les couleurs du pays hôte. Devait, car finalement la Fédération internationale a sévi à la veille du début de la compétition, une vingtaine de joueuses se sont vues exclure de la compétition car elles ne respectaient pas les conditions d'éligibilité. Un gros coup dur pour cette CAN, mais rien de plus logique pour Philippe Bana, le directeur technique national du handball français, qui a vu bon nombre de ses anciennes joueuses mettre les voiles pour l'Afrique. Il nous explique pourquoi.
Très simplement, il y a des règles de binationalité qui sont les mêmes pour tout le monde, à savoir, bien sûr, tout le monde a le droit de changer de nationalité, d'avoir deux nationalités, il y a des règles pour ça. N'avoir pas joué pour changer d'équipe de plus de 3 ans dans une équipe nationale. Il faut aussi, pour prouver que c'est une vraie identité, si j'ose dire, la règle internationale est d'une grande clarté. Il faut avoir soit des parents nés dans le pays, soit avoir séjourné dans le pays. Pendant plus de 3 ans, on a assisté malheureusement à une recrudescence de passeports accordés relativement rapidement, mais surtout, parce que ça reste un droit, le non-respect de l'ensemble de ces conditions au règlement international. Et la Fédération internationale a décidé d'appliquer la règle. c'est-à-dire de surveiller la liste de tous ces pays africains qui utilisent une discute de 27 joueuses françaises à peu près, et autres nationalités d'ailleurs, il y a des brésiliennes, il y a tout, qui ne répondent pas aux critères internationaux. Donc il y a là un manquement à la règle, de toute évidence, qui a été contrôlé par la Fédération internationale, un peu à notre demande et à la demande de beaucoup d'autres qui s'est commencé à s'inquiéter de cette prolifération. Puis derrière, il y a un petit souci au-delà de la règle qui est celui de l'éthique. Qu'est-ce qu'on va faire des joueuses françaises au milieu de ce truc? Bon, il y a quelque chose qui fait mal au cœur, voilà.
Et pourtant, on se souvient de contre-exemples. En 2015, le Qatar, chez les hommes, avait atteint la finale du mondial avec de nombreux joueurs qui n'étaient pas qatariens, sans être inquiétés. Qu'est-ce que c'est la différence avec la situation actuelle?
La différence, c'est que la règle a changé, que cet exemple a servi au niveau international pour dire il suffit pas d'avoir un passeport d'un seul coup pour changer quand on veut. Il y a un ensemble de règles qui sont évidentes, toujours les règles internationales de l'époque, mais en plus, comme je vous le disais, la capacité à prouver que on a bien un séjour dans le territoire, une ascendance, une présence, et non pas simplement l'attribution d'un passeport qui suffit parfois à détourner un peu la règle pour des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Congo, en Guinée ou dans sept pays africains visés par ce travail. Il y a quelque chose là d'un peu inquiétant et la Fédération internationale a très bien fait son travail. On en est assez satisfait.
C'est une décision qui risque quand même de considérablement affaiblir certaines équipes africaines. On pense au Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, surtout que ça intervient la veille du début de la compétition. Parce que justement, ça va pas nuire beaucoup à cette compétition.
Oui, mais c'est pas le championnat d'Europe, c'est le championnat d'Afrique. Faut quand même être clair. Et il y a là un certain nombre de règles, encore une fois, internationales qui ont été aménagées après 2015, qui visent à ce que tout ça soit un peu encadré et qu'on évite une espèce de marchandisation de gens qui se promènent comme ça au gré des compétitions. Certes, ça peut affaiblir la CAN, mais il y a dans ces pays où situés la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Congo, des magnifiques joueuses du cru, à qui on pourrait beaucoup plus faire confiance que des Françaises qui n'ont jamais vu l'Afrique.
Alors, en parlant de ces Françaises qui n'ont jamais vu l'Afrique, certaines étaient de très très haut niveau. On pense à Audrey de Rouen, qui est double vice-championne du monde avec la France, ou encore Audrey Bruno. Elles auraient pu servir de locomotive pour le hand africain. Est-ce que ça risque pas, ces interdictions, de freiner la progression du handball africain?
C'est locomotive, c'est quand vous êtes sur le terrain, c'est pas quand vous jouez à la place 2. Pour moi, leur place n'est pas là-bas. Leur place est éventuellement se battre pour leur club en France, une sélection française. Et encore une fois, la binationalité est un droit. C'est pas ça qui est critiqué. Elles ont parfaitement le droit, sauf qu'elles ne répondent absolument à aucune des conditions nécessaires pour jouer.
Philippe Bana, directeur technique national de la Fédération française de handball. La CAN sans les joueuses binationales françaises débute, elle, demain avec Sénégal, Cameroun, Algérie, Côte d'Ivoire et Angola, Guinée. Et après la cérémonie d'ouverture, place au pays hôte, le Congo face au Maroc. Antoine, en basket, il lui a fallu aller en prolongation, mais ça valait sûrement le coup. L'Égypte qui a pris une très sérieuse option pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde.
Face à une Tunisie déjà assurée d'aller au Mondial, les Égyptiens se sont imposés 73-64 grâce à une prolongation de grande classe remportée 15-6. Un succès de prestige face à des champions d'Afrique invaincus sur le continent depuis 2017. Mais surtout, une excellente opération. L'Égypte troisième du groupe E est du coup en bonne position pour être meilleure troisième dans cette zone Afrique. L'Égypte troisième derrière l'Angola. Les Angolais qui n'ont eu aucune difficulté pour s'imposer sur le Tchad, 90-50. De son côté, le Cameroun n'a pas perdu tout espoir. Vainqueur du Maroc ce soir, 63-57. Les Camerounais affronteront les Égyptiens demain dans une sorte de finale vers la Chine, mais il faudra s'imposer largement pour les Lions indomptables. Les autres rencontres de demain, Tunisie-Angola et Maroc-Tchad.
Merci beaucoup Antoine Grenier. Allez, on quitte l'Afrique pour s'ouvrir de nouveaux horizons et on part dire au revoir à une vieille dame. La Coupe Davis, 118 ans, s'offre un lifting. La finale entre la France et la Croatie la semaine dernière a clos un très long chapitre. Adieu la formule centenaire, le changement c'est maintenant. Terminé le fameux charme de la Coupe Davis et ses rencontres sur 4 week-ends étalés dans l'année, à domicile ou à l'extérieur. Désormais, à l'exception d'un tour préliminaire en février, tout se jouera fin novembre dans une ville neutre. Un chamboule-tout proposé par le richissime groupe Cosmos du footballeur Gérard Piqué et validé cet été par la Fédération Internationale de Tennis. Et le changement, ça ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas aux joueurs. Le point avec Eric Mabrut.
Un stade Pierre-Mauroy en fusion, plus de 25 000 spectateurs, 3 jours durant pour célébrer la Coupe Davis. Beaucoup de Français, bien sûr, mais des Croates aussi, pour une ambiance indescriptible. Pendant 118 ans d'histoire, cette fête collective, née des duels à domicile et à l'extérieur, fut le sel de cette compétition. Désormais, c'est terminé. La Coupe Davis se jouera sur terrain neutre à Madrid. Une bien mauvaise nouvelle pour les supporters qui ne pourront pas tous faire le déplacement, mais aussi pour les joueurs, à l'image du Français Jérémy Chardy.
Je suis vraiment triste parce que Coupe Davis, c'est ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit et m'a donné envie de jouer au tennis. Je commençais, j'étais ramasseur de balles, donc voilà, je pense comme beaucoup d'amoureux du tennis, la Coupe Davis, c'est quelque chose d'incroyable. Quand tu as la chance d'être joueur, c'est quelque chose de vraiment spécial aussi. Donc voilà, je pense que tout le monde est triste, que ce soit les joueurs, les supporters qui nous suivent partout. Le fait de jouer à l'extérieur, à la maison, c'est des choses incroyables. La meilleure réponse, c'est de voir que sur tout le week-end, il y a entre 25 et 29 000 spectateurs tous les jours. Beaucoup d'émotions chaque jour. C'est une fête du tennis et de voir que ça s'arrête, c'est triste. Donc voilà, même si l'année prochaine, il y aura une nouvelle Coupe Davis, pour moi, la vraie Coupe Davis, c'est terminé. Ça sera une nouvelle compétition qui portera le même nom, mais ça sera plus du tout pareil.
Une nouvelle Coupe Davis pleine de dollars. 3 milliards sur 25 ans ont été promis par Gérard Piqué et son groupe Cosmos. À Léché, la Fédération internationale, l'ITF, a sauté sur l'occasion en faisant fi des autres propositions, beaucoup moins radicales, pour moderniser une compétition mal placée et qui peinait parfois à rassembler les meilleurs. Pour l'ITF et même pour le président de la Fédération française, Bernard Giudicelli, qui a soutenu le projet malgré la désapprobation de nombreux acteurs du tennis tricolore, tout cet argent est indispensable aux petites fédérations mondiales pour développer le tennis. Mais pour le joueur français, Nicolas Mahut, cet argument n'est pas valable.
Il y avait d'autres moyens d'avoir de l'argent. Je pense que les grands chelems qui gagnent beaucoup d'argent auraient très bien pu se réunir pour donner une partie des recettes. Si chaque grand chelem en donnait un certain pourcentage, je pense que la Coupe Davis était sauvée. Alors oui, il fallait travailler sur le format pour alléger le calendrier. Enfin, tout ça, on l'a dit déjà. On a donné plein d'idées qui étaient bonnes pour sauver cette compétition et on en arrive à accepter un format comme ça. Alors oui, il y a des fédérations qui ont besoin d'argent, qui n'ont pas de grand chelem, qui ont voté oui. Mais accepter une compétition pour ça, je suis désolé, ça me révolte. La décision de la France, pour moi, ça passe pas.
Nicolas Mahut en colère, tout comme le désormais ex-capitaine tricolore Yannick Noah, qui en veut beaucoup aux dirigeants de l'ITF et à Gérard Piqué.
Qu'est-ce qu'un joueur de foot vient nous s'occuper de notre jeu, là? Est-ce que je m'occupe de la Champions League? Est-ce que je m'occupais de son équipe de Barcelone? Non, mais j'ai rien à lui dire, moi. J'ai rien à lui dire. Mais qu'est-ce qu'il propose? Il va essayer de faire du blé. J'ai rien contre. Hein. J'ai rien contre, mais ouais, on va voir si effectivement ça va être bien redistribué pour des petites nations de tennis. Vous allez vérifier. On va vérifier, hein, les enveloppes, hein, avec des matchs en 2-7, très courts, dans un lieu neutre. Voilà, j'ai des doutes, j'espère que je me trompe, vraiment.
Une formule donc qui ne convainc pas, de même que sa place dans le calendrier du 18 au 24 novembre. Des dates qui rallongeront pour la petite centaine de participants de plus de 3 semaines, une saison déjà longue et éprouvante. Du coup, Pierre-Hugues Gerber ne sait vraiment pas s'il lancera.
Ce qui va être créé à Madrid, ça va ressembler à des tournois qu'on a comme le reste de l'année sur l'ATP Tour. C'est-à-dire que c'est sur une semaine, effectivement on va représenter notre pays, mais on jouerait pas devant notre pays ou contre un pays qui joue à la maison. Donc ça sera jamais vraiment les mêmes sensations. Déjà ça va être en fin d'année, une fois de plus, une compétition, et c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'on a envie aujourd'hui, alors qu'on pourrait s'entraîner, de partir faire une compétition en toute fin d'année qui est pas aussi touchante que la Coupe Davis? Et c'est pour ça que moi j'ai aucune idée si j'aurais envie de le jouer ou pas.
Si Rafael Nadal devrait être présent chez lui à Madrid, d'autres cadors ont d'ores et déjà décliné l'offre, comme Roger Federer, Dominic Thiem, ainsi que le leader de la nouvelle génération, Alexander Zverev. Pour Lucas Pouille également, c'est non.
Je ne participerai pas à la prochaine Coupe Davis, c'est certain. Dans ma tête, pour moi, c'est complètement nul. Donc non, je n'irai pas jouer à Madrid en novembre 2019.
Et comme si ce n'était pas déjà suffisamment compliqué, l'ATP, l'autre entité du tennis, celle qui gère les tournois en dehors des grands chelems, a décidé la création de sa propre Coupe du Monde par équipe. Quasiment la même compétition avec des points ATP en plus. Une ATP Cup prévue en Australie, soutenue par le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Déstabilisé, l'ITF et Gérard Piqué multiplient les contacts avec l'ATP et les meilleurs joueurs pour essayer de trouver une solution. Laquelle et pour quand, nul ne le sait. À un moment donné, il faudra n'avoir qu'une seule compétition, a reconnu dernièrement le président de la Fédération internationale, David Agherty. Bref, la situation est abracadabrantesque, proche d'un grand gâchis. Ce pauvre Dwight Davis a déjà dû se retourner dans sa tombe plus d'une fois.
Reportage Eric Mamrut, la Coupe Davis qui divise, et en attendant de savoir quels joueurs participeront à cette nouvelle formule et lesquels préféreront l'ATP Cup, eh bien la prochaine grande échéance en individuel, ce sera l'Open d'Australie et ce sera en janvier prochain. On passe au football en Europe, en France. On joue ce week-end la 15e journée de Ligue 1. Et lui a tout vu, tous les matchs, tous les buts. C'est Tom Rossi. Bonsoir Tom.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Saint-Etienne qui a battu Nantes 3-0 en ouverture hier. Et ce samedi, 5 matchs étaient au programme, dont ce choc du haut du tableau entre deux prétendants au podium, Lille et Lyon.
Et pas de vainqueur hein, dans ce match animé de partout. Froid de réalisme, les Lillois ont d'abord mené 2-0 grâce à Loïc Rémy et l'inévitable Nicolas Pépé en première mi-temps. L'Ivoirien qui ajoute là un 9e but à son compteur. Insuffisant, puisque les Lyonnais ont su relever la tête en deuxième mi-temps, avec d'abord la réduction du score du Burkinabé Bertrand Traoré à l'heure de jeu, puis l'égalisation à la 86e minute de l'attaquant français Moussa Dembélé entré en jeu. Un coaching gagnant donc pour l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, fier de son équipe.
Mon équipe m'a énormément plu ce soir pour plusieurs raisons. La première, par la qualité du jeu qu'on a fourni face à un adversaire qui est très très difficile à manœuvrer ici, par l'état d'esprit qu'on a affiché, on n'a pas lâché même en étant mené 2-0, ce qui illustre parfaitement ses propos, c'est l'entrée des joueurs qui n'ont pas débuté, qui ont été décisifs. Ça aussi ça montre qu'il y a un bon esprit dans ce groupe et je pense qu'on est sur la bonne voie, maintenant il faut enchaîner.
Bruno Genesi au micro de Beansport.
Et Lyon qui arrache donc le nul, mais qui perd sa deuxième place au profit de Montpellier.
Les Montpelliérains sans pitié à Monaco. Les Monégasques, avant-dernier, ont perdu 2-1. Et comme rien ne va, le scénario est cruel. L'ASM menait 1-0 à la pause grâce au Belge Tielemans. Mais en fin de match, Laborde a égalisé, puis le Serbe Skuletić a donné la victoire à Montpellier. Une défaite difficile à encaisser pour le gardien suisse de Monaco, Diego Benaglio sur Beansport.
C'est incroyable dur de perdre ces matchs encore. Je trouve spécialement au premier mi-temps, on a fait un bon match. On était bien dedans. À la fin, on n'était pas assez attentif ou assez expérimenté de dégager les ballons sur la tribune.
Et puis Tom, dans les autres rencontres, comme souvent, Nîmes a fait le show à domicile face à Amiens. C'est simple, 3-0.
Des crocos mis sur orbite juste avant la pause par le Gabonais Denis Bouanga. En deuxième période, le Marocain Rachid Alioui y est allé de son doublé, son premier en Ligue 1. Le promu Nîmes grimpe à la 8e place au classement, juste derrière Nice, qui n'a pu faire mieux que 0-0 à Guingamp. À noter également le match nul, un partout, entre Angers et Caen.
Allez, on quitte la France, direction l'Angleterre, et la 14e journée de Première Ligue, avec les deux Manchester qui étaient sortis ce samedi.
Avec City, d'abord, qui a battu Bournemouth 3-1. Les Citizens s'enchaînent un 6e succès en Première Ligue et restent seuls en tête du classement, très loin, devant United 7e. Les Red Devils ont fait match nul, deux partout, chez le 18e Southampton. Demain dimanche, c'est jour de derby, Martin, en Angleterre, avec Chelsea, Fulham, Arsenal, Tottenham et Liverpool, Everton. Enfin, en Espagne, sachez que le Real Madrid vient de battre Valence 2-0 et revient à 2 points de Barcelone qui affrontera demain Villarreal.
Et voilà, on sait tout. Merci beaucoup Tom Rossi pour ce point très complet sur le football en Europe. Allez, on termine ce Mondial Sport par quelques résultats. Avec du basket d'abord, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde qui se disputera l'an prochain en Chine. Des Bleus qui ont battu la République Tchèque qui était déjà qualifiée. Seront également du voyage en Chine les Australiens, premiers représentants de la zone Asie à se qualifier grâce à un large succès sur l'Iran. Et puis en mode rugby avec la suite du top 14, tout va très bien pour le leader clermontois, tandis que ça ne va pas au mieux pour les vice-champions de France Montpellier. Clermont qui s'impose sur la pelouse, Montpellier-Rennes, 28-23. Allez, Mondial Sport, c'est déjà fini pour ce soir. Mais on revient demain à la même heure, on vous concocte un joli petit programme. On reviendra sur la finale retour de la Coupe de la Confédération entre les Congolais de l'AS Vita Club et les Marocains du Raja Casablanca. Et on fera monter la sauce à 24 heures de la remise du Ballon d'Or, mais je ne vous en dis pas plus. C'est une surprise. Évidemment, Mondial Sport, demain, même heure, même chaîne, 21h30, temps universel sur RFI. Merci beaucoup, Hélène Avril, à la réalisation. Tout de suite, la suite de la formation avec 24h en France. Ce sera présenté par Clément Fraioli.